assez difficile qui m'a été donné de partager. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on reprenne le texte de Caïtélu ce matin sur Genèse. On va partir de là comme départ. Et c'était suite à ce qu'on a vécu en Église, les bousculements qu'on a eus avec le départ de Flavie en particulier, un décès subi et on a été un peu bousculés. On a parlé beaucoup de la souveraineté de Dieu, de sa grâce. Et il y a eu un peu des réactions au milieu de nous et c'est normal. Des réactions qui ont dit, oui, mais si on met l'accent sur la souveraineté de Dieu, alors est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à faire ou qu'on doit laisser tomber? Vous voyez, notre combat, notre... Et puis inversement, ben, si on est dans le combat, tout ça, qu'en est-il de la souveraineté de Dieu? Et j'aimerais partager ce thème de la relation entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité des hommes. Et c'est vraiment, c'est pas si simple. Que Dieu nous aide. Seigneur, je te demande devant ta grâce sur ce temps qu'on puisse avoir l'esprit de révélation et ton Saint-Esprit, ta parole qui vienne éclairer nos cœurs. Merci Seigneur. Alors, je reprends Genèse 14, versets 18 et suivants. Donc, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit... Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Je m'arrête là. Dieu a livré ses ennemis entre ses mains. Dieu souverain. Dieu qui règne. Dieu qui livre les ennemis. Est-ce que ça voulait dire qu'Abraham n'a rien fait? Vous prenez les versets avant. Abraham, il s'est battu jusqu'au bout. Il s'est levé, il a organisé son armée, il a quitté le confort et il les a poursuivis jusqu'au bout. Il s'est donné entièrement. Nous avons dans ce texte une alliance entre la responsabilité des hommes et puis la souveraineté de Dieu. Dieu qui est souverain, qui sait les choses à l'avance et c'est ce mystère que l'homme est fait pour travailler avec lui. Alors, la souveraineté de Dieu, qu'est-ce qu'on entend par souveraineté? Alors, on est dans un monde, on a plus tendance à mettre la souveraineté de l'homme. Notre culture, en France en particulier, en Europe et dans le monde, c'est moins la valorisation des efforts humains. Et donc cette notion de souveraineté de Dieu, c'est un peu difficile. Et il faut savoir que nous fêtons les 500 ans de la Réforme, mais les réformés, quand vous lisez tous les écrits là, de Calvin, etc., en particulier les réformateurs du XVIe siècle, ils avaient une idée de la souveraineté de Dieu qui était extrêmement forte. Dieu souverain, Dieu règne, je vis pour sa gloire. Et quoi qu'il arrive, il règne. C'est quelque chose de très très fort, comme révélation. Je pense que c'était plus fort qu'aujourd'hui, la révélation de la souveraineté de Dieu. Est-ce que ça les a empêchés d'exercer la responsabilité? Ben non. Le premier mot de la réforme, c'est responsabilité. L'impact sur la société, l'engagement dans la société était d'autant plus important qu'ils avaient la vision d'un Dieu souverain. Donc notre histoire de France en particulier, nous montre que plus grande est la révélation d'un Dieu souverain, plus grande est l'implication des hommes dans la société. Ça pourrait être paradoxal, c'est paradoxal, c'est un peu bizarre. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on ne tombe ni dans un domaine qui serait celui de la seule souveraineté de Dieu, au détriment de la responsabilité, ou qu'on tombe dans « c'est mes affaires, c'est moi qui dois faire, c'est moi qui dois prier », au détriment de la souveraineté de Dieu. Alors, qu'entend-on par souveraineté? Alors, nous sommes dans un monde humaniste, c'est l'homme qui est le centre, et nous, on est tous tentés par ça. Et notre ancien ministre d'éducation, ça date déjà, Luc Ferry, il disait ceci, il parle de l'humanisation du divin et de la divinisation de l'humain. Vous voyez, c'était un peu pour mettre le bazar, il était fort, un grand philosophe, mais alors lui, si vous voulez, c'est l'humanisme à fond la caisse, c'est les efforts de l'homme, voilà. Et l'homme livra lui-même, dit la Bible, 1 Corinthiens 2, il ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit. À ses yeux, c'est pure folie, il est incapable de comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet de juger. Donc voyez, la souveraineté de Dieu, c'est dire, on sait ces choses, l'unique souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, 1 Timothée 6, il mène tout au gré de sa volonté, Éphésiens 1, 11. Le psalmiste qui dit, l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et les abîmes. Alors ça, c'est même un grand monarque babylonien, Nabuchodonosor, vous savez ce qui lui est arrivé, il pensait être le centre, le gouverneur. On pourrait penser que ce genre d'autoritarisme, ce n'est pas de Dieu. Ben non, Dieu l'utilisait et Dieu était le Seigneur. Et lorsqu'il dit à la fin, il est touché par Dieu, Dieu lui dit, je remercie le Très-Haut, je louais celui qui vit éternellement, je proclamais sa gloire, sa souveraineté est éternelle. C'est Nabuchodonosor qui a été terrassé par Dieu, qui a eu cette révélation de la souveraineté de Dieu. Sa souveraineté est éternelle, son règne dure d'âge en âge. Devant lui, tous les habitants de la terre ne comptent pour rien. Il agit comme il l'entend envers l'armée des êtres célestes et envers les habitants de la terre. Donc voyez, nous avons ici la souveraineté de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu est libre, parfaitement libre. C'est le seul qui soit vraiment libre d'ailleurs, de tout. Il est libre de tout, il est le Tout-Puissant. Hein, personne ne tient à côté, il est omniscient, il sait tout. Hein, ça fait partie de sa souveraineté. Il est au départ de tout. Tous les départs, tout, il est l'alpha, l'oméga. Hein, il est la fin de tout. Il est le seul vrai amour. Hein, tout ça, c'est cette souveraineté. Il est celui qui est le seul saint, qui est éternel, qui est la vie. Toutes ces qualités de Dieu en tant que personne, c'est vraiment des qualités qui soulignent sa souveraineté. Et puis dans Actes des Apôtres, vous avez un texte assez extraordinaire, alors qui souligne encore plus. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dit « En lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Donc vraiment, il n'y a rien en dehors de lui. On dépend de lui totalement. La Sainte Cène qu'on a prise, c'est rappeler sa souveraineté et qu'on ne peut rien sans lui. Donc cette souveraineté, c'est dans tous les domaines. La création, l'histoire de l'humanité, le domaine du salut. Est-ce que c'est le fait que tu lèves la main qui fait un appel qui fait que tu es sauvé? Ou est-ce que c'est Dieu qui a fait que tu lèves la main? C'est le gros truc, hein. Voilà, c'est les grandes questions. Hein. Et il y a des textes qui sont très clairs dans les Écritures qui disent que Dieu a choisi, appelé. C'est lui qui met en toi le désir. C'est lui qui met en toi. Et puis en même temps, il nous a créés libres. Alors, cette doctrine de la souveraineté, c'est très important pour nous. Et je dirais que l'approfondissement, quand on chante « Il est roi des rois », etc., oui, mais je veux dire, on a besoin d'une nouvelle révélation de sa souveraineté. Il faut en être conscient. Et ça approfondit notre respect pour Dieu. Le thème de notre année, c'est honorer Dieu. L'honorer, c'est le connaître comme il est. Et il est souverain. Il est souverain. Et quelqu'un, par exemple, disait pour les dernières élections de Trump, il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis qui a dit, écoutez, moi j'étais contre, mais maintenant il est élu, donc on va tout faire pour prier pour cet homme. C'est Dieu qui l'a mis, point barre. Vous voyez, c'est impressionnant. Que tu sois d'accord ou pas, c'est Dieu qui l'a mis. Donc, nous sommes appelés à reconnaître cette souveraineté de Dieu, et parfois on a du mal. Hein, on a du mal avec ça. Donc, Dieu est souverain, ça approfondit notre respect pour lui. Ça, c'est le fondement de notre vie spirituelle. Dans l'adoration, par exemple, c'est la vision de la souveraineté de Dieu qui fait qu'on adore et qu'on est pertinent dans la prière. C'est la vision de la souveraineté de Dieu qui fait qu'on prie. Vous allez me dire, mais c'est paradoxal. Si Dieu fait tout, s'il sait tout d'avance, pourquoi prier? Vous voyez, c'est le genre de question qu'on a. Et on va voir, ça ne s'oppose pas. Et le Dieu souverain, c'est lui qui te dit « prie ». On est là, on se dit « mais Seigneur, est-ce que sans prier, tu ferais quand même les mêmes choses sans nous ?» Hein, c'est des grandes questions, on va un peu en parler là. Donc, cette souveraineté de Dieu montre le caractère absurde de toutes les religions qui sont basées sur les hommes, sur les efforts des hommes. Ça, c'est vraiment... Le christianisme, c'est le contraire. C'est Dieu qui descend vers l'homme, c'est Dieu qui dit « j'ai tout fait ». Prends, j'ai tout fait, c'est ce qu'on a chanté encore ce matin. Donc en fait, la souveraineté de Dieu, ça remet l'homme à sa place et Dieu à sa place aussi. Pas d'indépendance, pas d'indépendance. La souveraineté de Dieu, c'est ça, pas d'indépendance. Elle inspire une soumission volontaire, confiante, j'ai dit, à un Dieu qui est aimant. Donc ça, voilà. Et puis alors, la garantie d'un avenir qui est fait d'espérance. Alors, toute cette souveraineté-là, si on met l'accent dessus... Vous voyez, on dit, bon, il n'y a pas de hasard. Même dans Proverbe 16, vous avez un texte étonnant, on jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Même jeté au sort, Dieu contrôle le hasard. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut, même dans le jeté au sort. D'ailleurs, dans les traditions de l'Ancien Testament, il y a quand il faisait les Ourim et les Tourim, là, pour chercher la volonté de Dieu, on ne sait pas trop ce que c'était. Mais on sait que dans les Écritures, on a plusieurs fois des passages où il y a une sorte de tirage au sort pour chercher la volonté de Dieu, et Dieu gouverne même les dés. Donc, il est vraiment souverain. Il fait ce qu'il veut. Alors, est-ce que qu'en est-il de ma responsabilité par rapport à cette souveraineté de Dieu? Qu'en est-il de ma responsabilité? Lorsqu'il dit, Dieu, pas un seul moineau ne tombe à terre sans le consentement de notre Père céleste. Il semblerait que Dieu contrôle tout, qu'il sait tout, bien sûr, même le moindre cheveu. Et puis quand il est dit, Dieu a pitié de qui il veut avoir pitié et il endurcit qui il veut endurcir. Romains 9, c'est quand même des textes, il endurcit les cœurs. Le Pharaon, Dieu dit, il endurcit le cœur de Pharaon. Donc c'est un peu étonnant ces textes-là. Et Pharaon était endurci par Dieu pour ne pas lui obéir. C'est quand même... Ça, c'est la souveraineté de Dieu. C'est un peu bizarre. Mais il a... Donc, la Bible, elle souligne autant la souveraineté de Dieu, on va le voir, que la responsabilité de l'homme. Et on va le voir aussi. Les deux sont soulignés dans les Écritures avec autant d'aplomb. Et ça s'appelle ça... une antinomie, c'est-à-dire c'est des choses qui logiquement sont incompatibles, mais Dieu dit c'est comme ça. Et il y a un moment, mes amis, il faut plier. Il faut se dire, je prends les deux. C'est Spurgeon, le grand prédicateur Spurgeon, quelqu'un lui disait, mais comment tu fais pour concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité des hommes? Pour les réconcilier, comment tu fais? Et lui dit, elles n'ont pas besoin d'être réconciliées, ce sont deux amis. Voilà, la tradition évangélique chrétienne nous montre que les deux, en apparence, ça s'oppose, mais selon Dieu, dans ses desseins éternels, ça ne s'oppose pas. Et les deux sont vraiment soulignés avec autant d'insistance dans les deux domaines. Alors, on va voir ces deux vérités qui sont enseignées avec la même autorité de Dieu, et il s'ensuit que il faut les croire ensemble, même si elles paraissent contradictoires. La Bible dit, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Hein? Romains 9, 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il Dieu encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Si Dieu, en tant que Seigneur, il dirige toutes nos actions, comment peut-il raisonnable ou juste pour lui d'agir comme notre juge? Dieu est à la fois le roi souverain, donc il fait ce qu'il veut, et le juge de nos actions. Comment il peut être les deux, hein? Donc ça, c'est la grande question. Et le prophète Isaïe, à un moment, il dit, « Mais Seigneur, tes pensées ne sont pas les nôtres. Tes voix, ce n'est pas nos voix. Tes pensées sont tellement au-dessus. » Donc là, nous avons un thème biblique où les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et il nous faut absolument reconnaître cette sagesse insondable de Dieu, c'est Ésaïe 55, hein. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc c'est une antinomie, et nous devons vivre en tant que chrétiens la pleine certitude des deux notions en même temps. Il n'y a pas l'une au détriment de l'autre, c'est les deux. Plus tu as la vision d'un Dieu souverain, plus tu vas t'engager pour lui. Et ça, c'est très particulier. Donc, on va voir les deux tentations. La tentation de s'occuper exclusivement de la responsabilité humaine. C'est-à-dire, tout ce qui arrive, tu le considères, tu dis, ben mince, j'ai pas fait ça. Mince, j'aurais dû faire ça. Mince, vous voyez, on met tout le poids de tout ce qui arrive sur les actions qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites. Vous voyez? Donc ça, c'est une déviation très, très possible. Alors, très vite avec ça, l'accusation vient, la culpabilité vient. T'as pas fait ça, t'as pas assez prié, etc., etc. Faut attention. Donc l'homme, c'est un pécheur, bien sûr, qui a besoin de l'évangile. Il a besoin entièrement de l'évangile. Et on va mettre cet accent sur l'homme racheté, qui est responsable devant Dieu. Et s'il fait pas certaines choses, eh bien c'est que les conséquences sont terribles. Et donc on est là dans un stress qui n'est pas possible, voyez. Et donc on va mettre l'accent sur il faut par exemple que je prie autant, il faut que j'évangélise autant, il faut que sinon c'est foutu. Et ça, c'est vrai, mais en même temps, attention à que ce soit pas au détriment de la notion de la souveraineté de Dieu. Et par exemple, quand on évangélise, on sait que c'est pas nous qui sauvons, mais c'est Dieu qui sauve, par exemple. Donc, on n'est pas là, on évangélise, mais on sait que c'est Dieu qui est souverain. Vous voyez, c'est les deux en même temps. Je fais ce qu'il me demande, mais sans lui, je ne peux rien faire. C'est ça qui... Je fais ce qu'il me demande, mais sans lui, je ne peux rien faire. Vous voyez, ça c'est l'équilibre entre les deux. Il me dit de prier pour ressusciter les morts, je dois le faire. Pour guérir les malades, je le fais. Et donc ça, c'est la responsabilité de l'homme. Je n'ai pas à prier, à dire « Seigneur, guéris-le ». Le Seigneur dit « Tu vas et tu pries et tu imposes les mains ». Parfois, on dit « Seigneur, que cette montagne s'en aille ». Dieu dit « Parle à la montagne ». Donc, il y a la responsabilité de l'homme de parler, de proclamer, de prier jusqu'au bout. Comme Abraham, de prendre tous les chefs là et d'aller faire la guerre. Et en même temps, de savoir que toutes nos actions, s'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ça, c'est cette notion de la souveraineté de Dieu qui nous garde petits, si vous voulez. Qui nous garde humbles, qui nous garde dépendants. Et la tentation opposée, c'est nous préoccuper uniquement de la doctrine de la souveraineté de Dieu. Alors on va prendre par exemple les textes comme le sacrifice Uzza. Vous savez, là, lorsqu'on va ramener l'arche Israël, en Israël, eh bien, il y a Uzza qui voit l'arche qui a failli tomber. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va pour essayer de la qu'elle ne tombe pas, quoi. Et il meurt parce qu'il a touché l'arche. Alors vous avez dit, il a essayé d'aider Dieu, si vous voulez. Il a essayé de... Bah Dieu, attention, il faut absolument que je fasse quelque chose, parce que sinon, l'œuvre de Dieu va dépérir. Et Uzza est mort. Donc la souveraineté de Dieu, vous voyez, on se dit, mais alors est-ce qu'il faut que je fasse rien ? Dieu est souverain, c'est à lui. C'est lui qui s'occupe de son église, de ses affaires. Et alors, là aussi... on peut tomber dans un fatalisme. L'islam, par exemple, c'est cette notion de la souveraineté de Dieu sans la responsabilité de l'homme. Voyez, et ça amène des civilisations passives, des gens, des fatalistes. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc ça, c'est pas le christianisme. Donc ils ont la vision de la souveraineté de Dieu, ils n'ont pas la vision de la responsabilité de l'homme. Parce que le Dieu de l'islam, c'est pas un Dieu qui coopère. C'est un Dieu qui domine. C'est pas un Dieu qui dit « Tu es mon ami, je travaille avec toi ». C'est un Dieu qui domine et qui dit « Tu es mon esclave et tu vas faire ce que je dis ». Tu es une marionnette en fait. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous ne sommes pas des marionnettes. La soumission à Dieu n'est pas être une marionnette. Hein ? Je vous rappelais l'exemple jeune converti quand on choisissait un tapis avec Manuela et qu'une sœur elle dit « Est-ce que vous avez su là, est-ce que la volonté de Dieu pour votre tapis ?» Alors j'ai dit, mais c'est quoi ce beans là ? Elle dit, oui, moi j'ai reçu ce que Dieu voulait pour vous. Je dis, ouais, c'est bien, mais moi j'aime bien choisir quand même. Et là, c'est la première fois que je m'étais fâché, je me suis dit, mais Dieu m'a donné une liberté, une intelligence, je suis son fils, voilà, il m'a donné cette marge, choisis, vas-y, go, je te fais confiance. Voyez. Donc ça, c'est le christianisme, ça. C'est pas, il y a cette alliance entre la souveraineté de Dieu et puis en même temps, eh bien, cette responsabilité des hommes. Donc rappelez-vous, ceux qui mettent la tendance à Dieu souverain, Dieu seul souverain, c'est un peu comme il y a un exemple d'un missionnaire, c'était William Carey en Angleterre, et il a le fardeau de mettre en œuvre une société missionnaire, et il va rencontrer les vieux sages pasteurs je crois que c'était l'Angleterre, Londres. Et alors, il y a le président de séance. Alors, il est tout jeune, lui. Hein. Il arrive, il dit, voilà mon fardeau. Il faut faire une société missionnaire. Il faut toucher les nations. Et alors, écoutez ce qu'on lui a répondu. Ça, c'est l'idée, la souveraineté de Dieu, mais à l'extrême. Écoutez, un vieux pasteur, là, bien, bien établi, vous voyez, bien, bonne expérience. Tout le monde le vénère. Écoutez ce qu'il dit. Asseyez-vous, jeune homme. Lui dit le vieux guerrier. Lorsqu'il plaira à Dieu de convertir les païens, il le fera sans votre aide. Ça, c'est basculer la souveraineté de Dieu, voyez ? Que la souveraineté de Dieu, et on oublie la responsabilité des hommes. Et ça, malheureusement, ça a été dans le monde aussi protestant, catholique, etc. Chrétien, on a tous cette tendance, on peut l'avoir. Aujourd'hui, en tant que culture, on a plus la tendance à mettre la responsabilité humaine au détriment de la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la tendance aujourd'hui. Mais vraiment, là, ce William Carey, heureusement qu'il ne les a pas écoutés. D'ailleurs, si vous lisez son histoire, ce jeune homme, il a dû payer son voyage, aller par la foi en Inde et tout. Les sociétés missionnaires nous disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici? On ne te veut pas. C'était pas évident. C'était pas évident. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu ce jeune homme qui avait une immense révélation de la souveraineté de Dieu, mais en équilibre avec la responsabilité de l'homme, il n'y aurait pas eu cette évangélisation de l'Inde comme il l'a fait. Donc ça, c'était une belle histoire. Et puis, que dire lorsque Jésus parle des talents, la parabole des talents, donc la responsabilité des hommes. Il y en a un qui planque le talent. Seigneur, moi, regarde, j'ai planqué tout. Tu vas faire, hein, c'est toi qui es Seigneur, hein, c'est toi qui fais tout. Et le Seigneur le reprend. Il dit, tu aurais dû faire fructifier. Donc ça, c'est la responsabilité des hommes. Donc voyez, deux pièges opposés. Chacun est le résultat d'une vision partielle. Et ça implique un aveuglement partiel. Et donc, un engagement partiel. Donc voilà, nous avons affaire vraiment à une antinomie. J'aimerais vous montrer quelques versets bibliques étonnants. Vous les connaissez, mais j'aimerais qu'on les lise à cette lumière. Par exemple, Matthieu 26, verset 24. Judas, hein, regardez. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Souveraineté. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui, pour cet homme qui ne fut pas né. Responsabilité. Vous voyez ? Souveraineté, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. C'était écrit. Mais responsabilité, malheur à celui qui... Vous voyez ? Donc ça, on trouve ça partout dans les Écritures. Regardez, un autre passage, c'est dans Philippiens 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Responsabilité. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Souveraineté. Un seul verset. Les deux en même temps. Ça, c'est absolument étonnant. Hein, nous avons beaucoup d'autres passages comme ça. J'en ai un autre dans Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne n'a plus connu le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc ça, c'est la souveraineté de Dieu. Je ne peux pas connaître Dieu si le Père ne se révèle pas. Maintenant, regardez la suite. Il dit, venez à moi, responsabilité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, responsabilité. Recevez mes instructions, responsabilité. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Étonnant, étonnant. Là, on trouve vraiment ces deux doctrines qui ne sont pas opposées, qui sont absolument complémentaires, même si ça nous choque un peu. Hein. Vous prenez l'épître d'Éphésiens. Alors là, c'est encore plus fort. L'épître des Éphésiens, ça commence par Dieu souverain, Dieu qui règne, Dieu qui, il y a le mot prédestine, qui t'a destiné à l'avance à cela, cela. Par exemple, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Souveraineté de Dieu. Il nous a élus, il nous a choisis. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon son bon plaisir. En lui, nous avons reçu l'héritage. Nous avons été destinés d'avance. Nous qui avons été destinés d'avance, selon le bon projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté. Donc ça, c'est... Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est souveraineté de Dieu. Éphésiens, c'est clair. Mais regardez, lisez la suite. Impressionnant. Vous arrivez au chapitre 4, responsabilité. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne, responsabilité, de la vocation qui vous était adressée, en toute humilité et douceur, responsabilité, avec patience, responsabilité, vous supportant les uns les autres avec charité, responsabilité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, responsabilité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à Jésus, à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, responsabilité, etc. Vous avez toute la partie d'Éphésiens, tous les chapitres qui suivent, mettre l'accent sur la responsabilité de l'homme. Donc vous savez, l'épître des Éphésiens montre vraiment un accord extraordinaire des deux. N'attristez pas le Saint-Esprit, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons, responsabilité, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, responsabilité. Vous voyez, on pourrait continuer les versets comme ça. C'est impressionnant. entre la responsabilité et puis la souveraineté de Dieu. La prière, c'est pareil, la prière. Pourquoi prier ? Est-ce que Dieu a besoin de mes prières ? Si Dieu est souverain, il a besoin de prier. Mais la réponse, c'est Dieu qui est souverain t'ordonne de prier. Donc ça devrait suffire. On ne comprend pas. Comment ça se fait qu'il a besoin de nos prières ? Comment ça se fait qu'il nous a entraînés à prier que ton règne vienne sur la, et ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel ? Est-ce qu'il ne peut pas agir tout seul ? Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il a choisi de marcher avec toi et de marcher en collaborant avec toi. C'est comme s'il avait limité quelque part sa souveraineté. Encore, il faut se méfier quand on dit ça. Mais il a voulu marcher avec toi. Calvin disait ceci. Ne pas invoquer et prier Dieu, alors que nous savons qu'il est le Seigneur, que tous nos biens viennent de lui et qu'il nous convient à lui demander ce qu'il nous faut. C'est comme si quelqu'un, sachant qu'un trésor est enfoui dans une terre, le laissait là, par indifférence, sans prendre la peine de le déterrer. Donc là, vous avez bien l'alliance. Dieu est souverain, il a mis des trésors. C'est à moi de les déterrer. Et la prière, elle déterre les trésors. Vous avez un magnifique équilibre de la vision d'un Dieu souverain et de la responsabilité des hommes. Regardez Josué, on connaît. En tant qu'église Josué, on devrait connaître. Regarde la terre que je te donne, elle est à toi. Prends-la. Je te la donne, mais il faut la prendre. Souveraineté de Dieu, cette terre est à moi, je te la donne, c'est ton héritage. Prends-la, responsabilité. Tout dans la Bible, c'est comme ça. Et nous avons vraiment, c'est un privilège que nous avons de vivre avec un tel Dieu qui est souverain et qui en même temps collabore avec nous. Et même par rapport au mal, alors là, il faut pas me dire d'expliquer le mal. Il n'y a pas d'explication au mal. Il n'y a pas d'explication à la souffrance. On peut donner des éclairages, mais on peut. Le premier qui a une réponse claire à me donner, qui vient de me voir, parce que ça me paraît dangereux même de donner des justifications à la souffrance. Hein. On ne comprend pas tout. Et même le sacrifice de Jésus, c'est incroyable. Est-ce que Dieu n'aurait pas trouvé une autre solution que la souffrance de son fils jusqu'à la mort pour nous sauver? Enfin, c'est quand même, ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Je ne comprends pas, mais j'ai choisi d'aimer Dieu et de lui faire confiance, même quand je ne comprends pas. Et ce qu'on sait, c'est qu'il transforme le mal en bien. Ça, on le sait. Et on le voit avec Joseph, avec ses frères, de façon extraordinaire. J'aimerais donner un exemple et m'appuyer sur un exemple du rapport entre souveraineté et responsabilité. Et on a reçu, l'Église a reçu un mail, je ne sais pas si vous l'avez reçu, de David Lee, il y a quelques jours. Un mail qui vous donnait un lien. Alors si vous ne l'avez pas reçu, il faut vous plaindre aux informations. Mais il faut que tout le monde l'ait reçu, c'est une façon de communiquer ensemble. Je ne sais pas si tu l'envoies à tout le monde, David, tu l'envoies à tout le monde ou pas? D'accord, juste le conseil. Ah, donc, il faudra que... En fait, c'est un lien d'un message récent de Chris Vallotton sur les temps Kairos. Et là, ça illustre parfaitement bien. Vous savez, il y a deux mots pour le temps dans la Bible. Il y a le mot chronos, hein, c'est le temps le quantitatif, hein, le temps qui s'écoule, les minutes qui s'écoulent, les heures qui s'écoulent, etc. J'empile le temps, voilà. Il y a un début, il y a une fin. Et le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu vient dans le temps, de son éternité, il vient, c'est le moment de Dieu. Personne ne peut le savoir, personne ne peut le choisir, personne ne peut le provoquer. C'est Dieu qui a décidé, je viens maintenant. D'accord ? Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Les temps kairos, les opportunités de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Les fils d'Issachar, 1 Chronique 12, lorsqu'il est dit, « Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps, les temps kairos, les temps de Dieu. Et Dieu veut qu'on comprenne les temps dans lesquels nous sommes. Donc c'est Dieu qui est le maître des temps. Dieu est souverain. D'accord ? Mais regardez ce qu'il dit. Qu'ils aient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Responsabilité. Vous voyez ? 200 chefs et tous leurs frères. Donc, comprendre les temps de Dieu, souveraineté de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Et ça m'aide à qu'est-ce que je dois faire moi? Vous voyez? Toujours les deux. Alors, il donne cette parole, vous savez, lorsque Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », c'est la parole pour aujourd'hui. C'est la parole pour aujourd'hui. Et c'est vrai que on est pour tout ce qui est formation, hein, tout ce qui est formation biblique, théologique, etc. Mais si ça n'aboutit pas à comprendre quelle est la parole de Dieu pour aujourd'hui, on peut se poser des questions sur le but d'études poussées. On a besoin d'études poussées, mais pas au détriment de la révélation et de la sagesse que Dieu veut nous donner. Et ça, dans beaucoup de domaines, on est quand même un peu frustré parfois. Moi, je rêve d'un pays où le christianisme vit dans cet parfait équilibre, comme au temps de la Réforme, entre une connaissance et une maîtrise des Écritures d'un très haut niveau, et une compréhension des temps, et une implication et une incarnation du royaume d'un très haut niveau aussi, en même temps, voyez. Et ça, je crois que Dieu va le faire. Dans Galates 4, il est dit, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, les temps, Kairos. » C'était le temps de Dieu. Pourquoi Jésus est venu à ce temps-là? Est-ce que c'était dû à la prière d'une âne, par exemple? Sûrement qu'il y a eu la prière qui a contribué, mais Dieu avait choisi ce temps. Et personne d'autre pourra le faire changer. C'était choisi. Aucune intercession, je pense, ne pouvait changer ce plan de Dieu. Il a décrété que son Fils venait dans cet empire romain à ce moment-là. Et il a préparé tout pour ce moment-là. C'était le moment de Dieu. Ce n'est pas le moment des hommes. Parfois, regardez, il y a des gens qui pensent que si le réveil ne vient pas, c'est parce qu'il n'y a pas de prière. Vous voyez ce genre ça veut dire quoi? On met la responsabilité sur l'homme. Hein. C'est la prière de l'homme qui fait que je peux tout changer. Et il n'y a plus de la vision de la souveraineté de Dieu. Et on est très vite comme ça, dans l'un ou dans l'autre. Et moi, je crois que la réponse par rapport à la prière, c'est prier ce que Dieu prie. C'est pour ça que la prière en langue, je sais que samedi dernier, c'est Denis qui a enseigné sur la prière, mais la prière dans l'esprit, mes amis, là, vous ne vous trompez jamais. Vous priez dans l'esprit. Vous priez la parole de Dieu, ce qu'il a appris, Denis. C'est un bon message, ce qui était là samedi dernier, mais priez avec la parole, là, on ne se trompe pas. Priez ce que Dieu prie, là, on ne se trompe pas. Donc voilà, Dieu, il est le maître des temps kairos. Et vous avez dans Éphésiens aussi, on retrouve ce mystère des temps de Dieu. Et il donne l'exemple, Chris Baloton, de Josias, dans l'histoire de Josias dans 1 Rois 13. Il a été prophétisé bien avant Jésus-Christ, cette venue d'un roi qui allait rétablir Israël. Et je ne vais pas aller dans les détails, vous écouterez le lien parce qu'on le verra, je pense, à toute l'Église. Mais on voit ce jeune roi qui n'a pas compris exactement, à 8 ans, il va au trône, et il faudra attendre qu'on retrouve le livre de la loi qui était caché, qui n'était plus lu, qui était perdu, et en rebâtissant un peu dans ce temple, en restaurant, on retrouve le livre qui était caché, parce que ça suivit un temps de persécution, et on lit la Torah qui n'avait pas été lue depuis plus de 48 ans. Et là, il a compris que, en fait, cette prophétie, qui parlait d'une restauration, elle parlait de lui aussi. Et il a reconnu les temps dans lesquels il était. Et tout d'un coup, en tant que jeune roi, il s'est dit, waouh, j'ai ma responsabilité. Dieu a prévu que je sois là. Et je comprends que je vis dans un temps qui est le temps de Dieu. À cause de ça, je vais mettre au travail. Je vais abattre les idoles. Je vais bâtir la maison de Dieu. Je vais restaurer les choses. Voyez, il aurait pu se dire, bon, Dieu l'a voulu, il va le faire, quoi. Hein? Il va le faire, Inch'Allah, quelque part. Mais il a compris que les temps de Dieu étaient là et qu'il devait se lever. Et ça, c'est vraiment... Il a discerné le temps Kairos. Et ce temps Kairos, la réforme a été un temps Kairos en France. Ça a été un temps de Dieu. Bien sûr, Dieu a entendu les soupirs, les prières, mais il a voulu ce temps. Et on a un frère qui est venu du Mexique il y a quelques années, qui avait enseigné sur les cycles des 500 ans, depuis la Genèse. Et il montre que tous les 500 ans, il y a quelque chose, il y a un mouvement de Dieu phénoménal. Ça, c'est les temps Kairos. Nous sommes dans un temps kairos aujourd'hui. Et ça, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est Christ le dit, d'autres le disent, nous sommes dans des temps kairos. Et ça veut dire que nous sommes dans des temps où la responsabilité individuelle est extrêmement importante. Beaucoup plus que n'importe quelle autre époque. Nous sommes dans un temps d'opportunité. Christ parle de trois choses. Il parle de l'accélération, des choses qui ont l'habitude, qui d'habitude prennent des années pour voir le bout. Tout d'un coup, ça s'accélère. Et pendant 70 ans, ils avaient essayé de rebâtir en Israël, au temps de Néhémie. Et en 52 jours, tac, c'était le temps de Dieu. La muraille a été rebâtie. Donc nous sommes dans des temps kairos, et je crois qu'il faut s'attendre, et il faut prier, et il faut s'investir pour faire partie de cette accélération que Dieu a prophétisée. Il nous dit ceci aussi, des choses inhabituelles arrivent contre toute attente, des événements inhabituels. L'année 2017, là, on a quand même vu des choses étonnantes depuis le début. Des choses qu'aucun sondage, aucun pronostic n'annonçait. On est bouleversé un peu là-dedans. Ça va vite. Des choses nouvelles, des choses étonnantes. Un peu comme au temps de Gédéon. C'était un temps kairos, Gédéon. Israël qui était opprimé, Israël qui était persécuté, Israël qui était volé régulièrement, depuis des années. Ils avaient l'habitude presque d'être pillés et volés. C'est une culture. Jusqu'à ce que Dieu appelle Gédéon. Il dit Gédéon, vaillant héros. Alors Gédéon, si Gédéon avait eu la vision de la souveraineté de Dieu, il aurait dit, ben Seigneur, c'est super que tu viennes, hein, parce que qu'est-ce qu'on souffre. Il est temps que tu fasses le boulot, là. Hein. Il est temps que tu interviennes. Mais Dieu, il a dit, Gédéon, c'est à toi de te lever. C'est à toi d'abattre les idoles. Alors l'histoire des cruches et des flambeaux et tout ça, c'est, il fallait vraiment être confiant en Dieu, quoi. Hein. Et il l'a fait. Et on voit que même les ennemis, ils savaient que c'était le temps kairos, parce qu'ils tremblaient devant Israël. Ils étaient bien plus nombreux, bien plus forts, mais ils tremblaient devant Israël. Nous sommes dans des temps kairos qui soulignent notre responsabilité à tous. Et puis, Christ parle des interventions surnaturelles. Il y a des choses qui viennent, qui sont vraiment cette grâce de Dieu. Et c'est comme au temps d'Esther. Et il termine là-dessus. Je crois que c'est juste pour nous. Lorsqu'au temps d'Esther, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es de la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, temps de Dieu, kairos, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. » Et puis lorsqu'il dit, « Et qui sait ?» Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, kairos, que tu es parvenu à la royauté. Donc, ce n'est pas un hasard si tu parles français. Ce n'est pas un hasard si tu vis en Alsace. Ce n'est pas un hasard si tu es dans cette église, un peu folle, un peu extravagante parfois. Ce n'est pas un hasard si Dieu t'a donné des rêves immenses. Ce n'est pas pour te frustrer, c'est parce que c'est un temps kairos. Et ces temps kairos, ce n'est pas forcément un moment. Les temps kairos, c'est des saisons. Nous sommes dans une saison d'opportunité. Une saison où il faut prendre toutes nos responsabilités. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Et je me rappelle ce qu'on a vécu de très fort lorsqu'on avait une intercession là en novembre. Lorsque la veille de l'enterrement de Flavie, et lorsque tout d'un coup j'ai vu la génération des 30 ans se lever forte, et Dieu qui me demandait de les appeler. Voyez, à la fois Dieu lève et à la fois il faut les appeler, à la fois il faut accompagner, mais il y a quelque chose de très fort qui est là. On ne comprend pas tout, pourquoi tout ça s'est passé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on est dans un temps kairos, et nous vivons dans ce temps-là. Si la faveur de Dieu n'est pas sur une personne, elle n'est pas forcément sur une personne. La faveur de Dieu, elle peut être aussi sur un temps, sur une saison. Vous savez, le soleil est sur les bons, sur les méchants. Hein. Il est La faveur de Dieu, elle n'est pas seulement pour ses enfants. Je crois qu'il y a une faveur de Dieu sur notre pays et sur l'Europe. Et cette faveur de Dieu, il faut la saisir. Il faut oser demander comme jamais. Il faut être comme ces fils d'Issachar. On discerne les temps. On demande le remboursement des dettes. On demande là plus de l'arrière-saison. On demande les miracles. Nous sommes dans un temps kairos qui exige notre responsabilité. Et chacun ici, et je vous défie avec cette question, est-ce que tu sais le pourquoi tu vis ? Est-ce que tu sais quelle est ta place dans le corps, dans la muraille ? Parce que Dieu est un souverain, il est un roi, et nous lui devons soumission, obéissance, genoux pliés, il est roi. Je ne fais pas de ma vie ce que je veux. Ma vie, elle est à lui, souveraineté de Dieu. Et en même temps, Dieu, il te dit, tu es mon fils, je partage mon héritage avec toi. Prends cet héritage, rentre, toute terre que tu vas fouler, responsabilité, je te la donne, souveraineté. Donc c'est dans cette alliance des deux qu'on veut vivre en tant qu'Église, dans cet équilibre entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité pour chacun de nous, dans nos vies de famille, dans nos vies d'amitié, de citoyen, on veut vivre cette tension. Et les choses de Dieu sont souvent en tension. Il y a une tension entre le ciel et la terre. Il y a une tension entre le règne de Dieu qui est déjà là et qui n'est pas encore là. Vous voyez ? Totalement. Il y a une tension. Il y a une tension entre une vision que Dieu te donne et une réalité. Mais la maturité chrétienne, c'est la capacité de vivre les tensions de Dieu. Et quand on n'arrive pas à vivre les tensions de Dieu, c'est un symptôme d'immaturité. Et ça veut dire que Dieu veut faire un travail, et il le fera. Mais reconnaissons qu'il y a un travail à faire. La maturité consiste à vivre les tensions de Dieu, à vivre dans les tensions de Dieu, entre le pas encore de l'accomplissement final et le déjà là d'un certain accomplissement, entre les promesses de Dieu qui ne sont pas tout à fait réalisées et ce que je vis aujourd'hui qui est en marche, et je vis cette tension. N'abandonnez jamais, ne lâchez jamais, et que vraiment le Seigneur nous aide à vivre dans ces tensions et à ne pas louper les temps kairos de Dieu. Lorsque nous aurons le tabernacle de 12 heures, c'est un temps pour le pays comme jamais il y a eu, au niveau cacophonie, au niveau caca tout court, je dirais. Excusez-moi, là. Tu notes. Il y a Vito qui note les citations. C'est bien. Voilà. Mais dans les tabernacles du Seigneur, nous serons très probablement appelés à prier, intercéder pour le pays et à utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée dans ces temps de louange et d'adoration, de haute louange, psaume 149, pour exercer les jugements sur le pays, pour bénir nos gouvernants. Et je vous invite tous à préparer vos cœurs pour ce temps de tabernacle qui aura lieu. Seigneur, merci pour le temps kairos dans lequel nous sommes. C'est le temps de ta souveraineté, c'est le temps que tu as choisi. C'est le 500e anniversaire de la réforme. Non pas pour commémorer des choses anciennes et nous rappeler simplement être dans la nostalgie, mais pour reprendre l'héritage et aller plus loin que là où sont allés nos pères. Et Seigneur, simplement en tant qu'Église, nous te réclamons la nation et les nations pour héritage. Nous te réclamons la France, la francophonie, nous te réclamons nos enfants, nos familles, notre région. Et Seigneur, nous voulons exercer la pleine responsabilité dans juste des petits détails jusqu'aux grandes choses. Au nom de Jésus, nous répondons à ton appel, Seigneur. Et nous disons oui et amen. Et merci parce que c'est toi qui as mis dans nos cœurs ce désir de marcher, de te servir, de prendre le terrain et d'appeler le ciel sur la terre. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fortifie chacun, Seigneur. Et que ceux qui sont dans le camp de la souveraineté de Dieu, eh bien, s'équilibrent avec la responsabilité. Que ceux qui sont dans le camp de cette responsabilité de l'homme seul au détriment de la souveraineté reçoivent une révélation nouvelle et la paix qu'engendre la révélation de la souveraineté de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis chacun, Seigneur, dans l'œuvre et la vocation à laquelle tu l'appelles. Que chaque ministère aujourd'hui, ici, cette semaine qui vient, soit un instrument de vie, d'espérance, là où tu es, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Merci Luc. Voilà, ainsi se termine ce culte. Alléluia. Je crois que c'est vraiment important de...